les ondes buissonnières. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.
Chères auditrices et auditeurs de Radio Saint-Ferréol, bonjour et bienvenue dans Les Ondes Buissonnières, l'émission des pépites de la rédac de Radio Saint-Fé. Aujourd'hui, nous vous proposons l'écoute du programme Aura des Pâquerettes. C'est un rendez-vous mensuel proposé par les radios réunies au sein de notre fédération Aura FM. Ce programme, qui est mutualisé, se veut être une invitation aux auditeurs et auditrices de nos différentes antennes à découvrir les initiatives locales et les acteurs et actrices de chacun de nos territoires. Et on écoute aujourd'hui « C'est là que je veux aller », réalisé par Radio Saint-Ferréol. Et oui, c'est notre tour. Au programme, un parcours dans la vallée de la Drôme où vous rencontrerez de très jeunes cyclistes, une Allemande férue de résistance française, un producteur et distillateur de lavande passionné par son métier mais qui craint de le voir disparaître, avec en fil rouge le trajet de Capucine qui tente de rejoindre en autostop son lieu de rendez-vous. L'émission a été réalisée à partir d'extraits d'émissions hebdomadaires de la rédaction et de bénévoles de Radio Saint-Fé, ainsi que de sons réalisés en atelier radio par les élèves des écoles de Bourdeaux et de Manglon en mars et en juin 2022. C'est là que je veux aller, par Radio Saint-Ferréol pour Aura des Pâquerettes. Bonne écoute à toutes et à tous.
Aura des Pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur en Auvergne-Rhône-Alpes.
Une balade dans notre région à travers des sons, des voix et des rencontres.
Une émission proposée par les radios d'Aura FM à la découverte des initiatives locales et des acteurs du territoire.
Aura des Pâquerettes.
À Radio Saint-Ferréol, on aime les voyages, mais dans la vallée de la Drôme, c'est dur de ne pas être écolo. Alors on marche, on fait du vélo ou du stop. Pour cette édition d'Aura des Pâquerettes, on va sillonner la vallée de Créassou en passant par le Diwa. Au cours de notre périple, nous rencontrons un distillateur de lavande, des élèves cyclistes, une historienne de la résistance et une autostoppeuse.
Auditeur, auditrice, avez-vous déjà levé le pouce au bord de la route ? Avez-vous l'âme d'un baroudeur tel Kerouac ou juste peu d'argent et le goût d'un moyen économique et pratique de se déplacer ? Nous sommes en direct, comme tous les mardis midi. La collective est une émission toujours animée et co-construite avec les bénévoles et salariés de Radio Saint-Ferréol. Et aujourd'hui, nous sommes avec Marion, qui va nous raconter ses expériences d'autostop. Bonjour Marion.
Bonjour Thibault.
Et avec Capucine. Bonjour Capucine.
Bonjour.
Qui va remplir un défi pour cette émission spéciale. Elle va partir là, dans 30 secondes, dans une minute. Elle doit se rendre à Sous, je crois. Elle va le faire en stop depuis l'émission. Alors Capucine, est-ce que c'est ta première expérience de stop ou est-ce que ça t'arrive régulièrement ?
J'ai déjà fait de l'autostop, c'est vrai, toute seule et à deux.
T'as un souvenir de ta toute première expérience d'autostop ?
Ma toute première expérience, oui, je crois, c'était quand j'avais 10 ans avec ma grande sœur. Et nous faisions de la randonnée et on avait raté le bus pour rentrer sur Grenoble. Donc on a décidé de faire du stop, c'est elle qui m'a initiée à ça.
Et pourquoi tu dois te rendre à Sous, là, depuis Cré ?
Là, je vais animer des activités pour des jeunes à Sous avec Archijeux.
Tu as un rendez-vous alors ?
J'ai un rendez-vous, je dois y être entre 13h30 et 14h.
Ok, donc on va pas trop te retenir sur le plateau. Et t'as une voiture, toi ou...
J'ai pas de voiture, non. Je me déplace soit à vélo, soit du coup en stop ou en train.
Une bonne raison d'utiliser l'autostop. Alors, eh ben, on te souhaite bon courage. Donc Capucine va nous rappeler tout au long de l'émission pour nous raconter où elle en est dans son trajet depuis les studios de Radio Saint-Ferréol, place de l'église à Cré, jusqu'à Sous. Peut-être d'ici la fin de l'émission.
J'espère.
Bon courage.
Merci.
Tandis que Capucine tente de rejoindre sa destination, non loin de là, à Pont-de-Barret, nous croisons de bien jeunes cyclistes. Comme 400 autres élèves de primaire, il participe à la traversée de la Drôme à vélo. Un voyage de 5 jours d'environ 200 km de Haute-Rive à Buis-les-Baronnies. Nous leur prêtons des enregistreurs pour qu'ils recueillent la parole des habitants sur leur chemin.
Mets le casque. Tu vas voir.
Oui. Là, t'entends ?
Oui, très bien.
T'as
été sage à l'école aujourd'hui ?
Ouais. Ouais.
Toujours pas avec le micro parce que j'ai peur que tu casses.
Il y a personne.
Chut. Faut qu'on enregistre la porte.
Ah, bonjour messieurs.
Quel est ton meilleur souvenir de vélo ?
Le meilleur souvenir de vélo ? Je me demande si c'est pas les chutes dans le fond.
Bonjour, racontez-moi votre meilleure anecdote à vélo.
On était parti en vacances dans un lac qui s'appelle le lac de Salagou, je crois. Et on s'était dit on va faire un tour en vélo le soir. Donc c'était magnifique, on voyait le lac avec le coucher de soleil, enfin vraiment c'était super beau. Mais il y avait quand même eu beaucoup de vent et un peu de pluie de la nuit. Donc déjà le terrain il était un peu boueux puisque c'était un terrain un peu de VTT. Et après d'un coup il s'est mis à avoir des grosses bourrasques de vent. Et donc ça nous déséquilibrait avec le sol mou et tout. Et après il s'est mis à pleuvoir, donc on était trempés. Mais c'était quand même drôle puisque la pluie, la boue, le vent et tout, c'était quand même super drôle. Et ben ça je pense que c'est ma meilleure anecdote à vélo, mon meilleur souvenir.
Maman, quel est ton plus beau voyage à vélo ?
Alors je me souviens, quand je devais avoir 13-14 ans, je suis partie en colonie en Corse. Et en fait, donc on est parti 15 jours et on a fait une semaine de VTT et une semaine de catamaran. Et la semaine de VTT, en fait, ça consistait à... On montait les vélos et nous, dans un petit camion, nous montions en haut d'une colline. Et en fait, on faisait que de la descente en VTT dans les dunes. Donc c'était du sable durci et on faisait que de la descente et on arrivait à la plage et après on se baignait.
C'est quoi votre plus grand souvenir de vélo ?
C'est un souvenir pas très rigolo. J'étais à Montpellier en vélo sur la voie de tramway. Et en fait, il y a le tram qui arrivait derrière moi et quelqu'un en vélo en face. Et pour éviter le monsieur qui arrivait en face de moi, j'ai voulu me décaler en sachant qu'il y avait le tram qui arrivait derrière. Et en fait, la roue avant de mon vélo s'est coincée dans le rail du tramway. J'ai fait un gros soleil énorme, pile en même temps que le tram arrivait, et j'ai failli passer sous le tramway, j'ai tapé ma tête contre le tram. J'ai failli mourir ce jour-là.
C'est qui t'a sauvé ou qui a appelé les ambulances ?
Et on n'a pas appelé les ambulances, j'ai un copain qui est venu me chercher et qui m'a amené à me faire recoudre ma petite clé.
Ok. Avez-vous déjà fait une erreur pendant votre voyage, à part l'accident que vous venez nous raconter tout à l'heure ?
Oui, j'en ai fait plein des erreurs dans la vie, mais c'est pas grave.
Quel est votre meilleur souvenir sur un vélo ?
Mon meilleur souvenir sur un vélo, c'est quand je faisais mes sorties avec mes cousins, mes cousines, mes copains, mes copines. On allait faire de longues balades en vélo d'Andy.
C'est quoi votre plus grand souvenir de vélo ?
Alors, ce ne sera pas directement moi, ce sera par rapport à mon papa. Une fois, il a traversé la France en vélo. Et moi, j'étais toute petite. Lui, il partait en vélo, tac-tac, pendant 7 à 8 jours. Et moi, avec mes sœurs et ma maman, on a pris la voiture et on a traversé aussi la France. Et on s'est tous retrouvés à l'océan ensemble parce que j'habitais en Lorraine. Alors, ça, comme ça, on est partis. Et on s'est tous retrouvés à l'océan et on a accueilli papa qui arrivait en vélo. On lui a fait la fête. Et voilà.
Est-ce que tu étais fière de lui ?
Ouais, carrément.
Merci.
Merci.
Est-ce que tu as déjà fait le tour de la Drôme à vélo ?
J'ai un peu circulé dans la Drôme. Le plus grand voyage que j'ai fait, c'est vers le nord. C'est, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, la Norvège. ça vous évoque quelque chose? Voilà, le nord de la Norvège. Avec un peu de train, un peu de bateau, et il y avait 3000 km en tout, et c'était avec un copain. Et on a roulé pendant un mois et demi, je crois. Et on y était en juin, au moment où le soleil se couche sur la mer, là, les jours les plus longs. Et on a vu un coucher de soleil sur la mer, parce qu'autrement, il y avait des nuages. C'était assez, un peu triste, ça. Mais le voyage était très beau.
Merci aux élèves de l'école de Bordeaux qui ont réalisé ce reportage, diffusé lors de leur passage à vélo dans nos locaux à Cré, où ils ont animé une émission en direct. Entre-temps, on espère que notre autostoppeuse s'est rapprochée de sa destination.
Capucine, tu es en ligne avec Jean-Paul et Marie, deux automobilistes qui ont sont gentiment arrêtés pour te prendre sur la route. Tu en es où de ton trajet, Capucine ?
Je suis dans la voiture entre Cré et Sous, derrière un tracteur qui est un peu lent, mais tout se passe bien.
C'est la première voiture dans laquelle tu es montée, du coup ?
Je suis montée dans la deuxième voiture. Là, j'ai pris une première voiture du pont de Cré jusqu'au croisement avec la route pour Montélimar. Et ensuite, Jean-Paul et Marie m'ont pris en stop. Voilà.
Donc la première voiture, t'as arrêté un feu, un croisement, enfin un endroit un peu facile pour ensuite récupérer une autre voiture ?
Oui, je me suis arrêtée au feu, je ne sais plus le nom de la rue. Et ensuite, j'ai retendu le pouce de l'autre côté de la route.
Et ça a mis longtemps ? D'attente ?
Il y a eu 3-4 voitures. Non, c'était pas long. C'était peut-être 5 minutes, je pense.
Oui, c'est plutôt efficace. On rappelle que tu es parti sur le coup de midi 5 des studios. Donc, tu as déjà bien avancé. Et alors, tes conducteurs, Jean-Paul, Marie, si vous nous entendez, c'est la première fois que vous prenez quelqu'un en stop ou ça vous arrive souvent ?
Ça vous arrive souvent de prendre du autostoppeur ?
Ça vous arrive, oui. On est également inscrit sur Blablacar, mais c'est pas facile de trouver... des passagers, quand on est sur des distances qui ne sont pas interurbaines, quoi, dans la campagne.
Et alors là, vous n'avez pas hésité à vous arrêter pour prendre Capucine ?
Vous n'avez pas hésité à vous arrêter ?
Ah, pas du tout, non. Non.
Merci.
Vous vous appelez comment ?
Capucine.
On a pris Capucine, elle est vraiment charmante, on a bien fait, on est content.
Et en plus, vous êtes en direct sur Radio Saint-Ferrol, ce qui est quand même rare quand on prend un autostoppeur. C'était une surprise. Est-ce que vous, ça vous arrive, Marie, Jean-Paul, de faire du stop vous-même ou simplement vous prenez des autostoppeurs de temps à autre ?
Vu notre âge, on ne fait plus vraiment du stop. Où c'est qu'il y a un problème ?
En montagne,
oui. En vélo. En montagne ou en vélo, parce qu'on est loin de notre voiture. On est arrivé à un point où on est loin de notre voiture, mais c'est à peu près.
Par exemple, pour partir en balade, si vous avez garé la voiture quelque part et que vous souhaitez revenir à la voiture, vous faites la fin stop.
Et là, ça marche. En principe, avec les grosses chaussures de montagne, le sac à dos, ça marche.
Et c'est plus par un souci de sécurité que vous pensez que du coup, l'autostop serait plutôt une affaire de jeunes, alors ?
Non.
Ou peut-être pour le confort de ne pas avoir à attendre trop longtemps.
On n'a pas vraiment réfléchi à ça, mais on n'a pas l'idée de partir. On a plus de 70 ans, on n'a pas vraiment l'idée de partir en stop maintenant, sac au dos sur les routes. Mais on va peut-être essayer. Hein.
Et en tout cas, c'est pour vous, c'est des belles rencontres. Alors, quand vous prenez quelqu'un, c'est l'occasion de papoter, de discuter. Vous avez un bon souvenir comme ça de personnes avec qui vous avez partagé un long trajet en stop et de rencontres que vous avez pu faire ? À part Capucine ?
En Blablacar, oui, ça m'est arrivé. Oui.
Moi aussi.
C'est peut-être plus institutionnel. Il y a déjà une préparation à la fois du passager et du conducteur qui fait que la discussion fait partie du blabla, ça fait partie du contrat, entre guillemets. En autostop, c'est plus spontané, alors ça peut marcher, ou alors c'est quelqu'un qui est mutique et qui n'a pas envie de raconter sa vie, il ne se passe rien.
Moi, j'ai pris une jeune fille très récemment sur 15 km. J'ai eu du mal à lui arracher 2 oui et 3 non. C'est pas grave, hein.
Oui, alors que souvent, ça fait un peu partie du jeu quand on fait de l'autostop. Il faut, faut pouvoir faire la discussion aussi avec les personnes qui nous prennent.
Pour... Oui. Et en stop, ça marche bien aussi, souvent, de discuter avec les personnes. C'est encore plus spontané, comme disait Jean-Paul. Et sympa aussi.
Eh ben, je vous remercie, je vous souhaite un bon trajet. On te rappellera peut-être, Capucine, un peu plus tard pour savoir où tu en es, ou n'hésite pas à passer un coup de fil aussi, à nous interrompre dans l'émission.
Aura des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur.
Plus haut dans la vallée, dans le Haut-Diwa, nous accompagnons les élèves de l'école de Minglon dans une enquête radiophonique sur les traces d'une certaine Yvonne Audon. Ils reviennent juste d'une visite sur sa tombe, nichée entre quatre grands cyprès. Mais qui est Yvonne Audon ? Ils interrogent une passionnée de la résistance qui la connaît bien.
Alors Gudrun, je vais te poser quelques petites questions. Est-ce que tu peux te présenter ?
Oui, bien sûr. Donc, je suis Gudrun, j'habite au Galan. Je suis d'origine allemande, ça veut dire donc je suis née et j'ai grandi en Allemagne. Mais je suis en France depuis très longtemps. Et donc, j'ai aussi la nationalité française.
Quel est le lien entre Yvonne Audon et la commune de Minglon et d'Epaya ?
Sa famille est originaire de Minglon et plus précisément d'Epaya. Et la famille avait construit là une maison où tout le monde s'est retrouvé pendant les vacances. Et Yvonne Audon a passé toutes ses vacances de jeunesse là-dedans, mais aussi plus tard. C'est un endroit qu'elle a beaucoup aimé. Régulièrement, jusqu'à la fin de sa vie, elle est retournée là-bas et s'est même construit donc, un petit studio annexe pour pouvoir y séjourner tranquillement.
Quelles sont les grandes étapes de la vie d'Yvonne Audon ?
Pas mal, des grandes étapes. Déjà, elle a un grand passé comme bibliothécaire. Et c'est d'autant plus étonnant qu'elle ne vient pas d'une famille d'intellectuels. Donc, elle n'avait pas d'exemple dans la famille. Elle n'a pas été poussée extrêmement à se mettre au milieu des livres. Mais elle a découvert ça. Elle a fait des formations assez extraordinaires pour son époque. C'était très inhabituel pour les jeunes filles, d'ailleurs. Donc, elle est partie en Angleterre. Elle est partie deux fois aux États-Unis. Et à l'époque, dans les années 20, c'était absolument inouï. Ensuite, elle a participé à reconstruire donc la grande bibliothèque du musée ethnologique de Paris. Elle était vraiment très reconnue. La classification qu'elle a utilisée, c'était très avant-gardiste à l'époque. Et donc, elle a beaucoup fait aussi pour l'éducation populaire, pour que tout le monde puisse avoir des livres. Elle a participé à l'exposition universelle de Paris en 1937. Toujours avec cette perspective de prôner l'éducation populaire, de faire des choses pour des petites bibliothèques de quartier, des petits villages, etc. Ensuite, évidemment, il y a donc Yvonne Audon comme résistante. Et ça, il faudrait que je le raconte très longtemps. Je ne peux pas tout vous raconter là. Mais avec quelques amis, quelques collègues, ils ont construit un réseau. Les gens avaient pas mal de compétences. Ils ont aidé à faire évader des gens. Ils ont exfiltré des gens donc vers l'Espagne ou Londres, Angleterre. Ils ont collectionné des renseignements et ils ont fait un journal donc clandestin, donc contre l'occupant et contre le régime de Vichy. Donc, elle était prisonnière en Allemagne et lorsqu'elle est revenue, elle a travaillé pour l'UNESCO et donc là, elle a beaucoup voyagé à Haïti, encore aux États-Unis, au Nigeria. Donc, c'est un pays qu'elle aimait beaucoup.
Que représente Yvonne Audon pour toi ?
Yvonne Audon, c'est un grand exemple pour moi. Donc, elle montre que même lorsqu'on est tout seul, on peut vraiment faire beaucoup de choses contre l'injustice et réunir pas mal de gens. Et même dans une situation désespérée, on peut toujours faire quelque chose. Donc c'est pour ça, c'est un grand exemple, c'est un exemple d'espoir. Et donc c'est pour ça aussi, je pense, il faut absolument conserver cet exemple.
Est-ce que c'est important pour toi en tant qu'Allemande de travailler sur cette période de l'histoire ?
Oui, c'est très important et je le fais depuis très longtemps d'ailleurs. Hein, donc j'ai longtemps travaillé sur la résistance en Allemagne. J'ai fait des recherches sur les Allemands qui étaient dans la résistance contre le régime nazi. C'est particulièrement important parce que ce sont les générations après-guerre qui se sont en Allemagne, qui se sont posées beaucoup de questions. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays? Qu'est-ce que nos pères ou grands-pères ont fait? Souvent, ils étaient très sévères avec leurs pères ou grands-pères ou grands-parents. Et ce sont justement souvent ces générations qui se sentent très concernées, étant donné que j'habite maintenant en France. Bon, c'est un peu logique de continuer aussi donc avec les résistants d'ici et des résistantes surtout, hein, et surtout de Minglan. Donc c'était déjà un tout petit peu connu qu'à Minglan, il y avait cette maison de famille. J'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur elle, qu'il n'y a pas beaucoup de publications. Et ça, je me suis dit, il faut creuser un peu plus.
Est-ce que tu prends plaisir à travailler sur Yvonne Audon ?
Oui, beaucoup, hein, beaucoup, oui. Donc, chaque fois, je suis très contente quand j'ai trouvé quelque chose, donc une information que je n'avais pas encore, un document que je cherchais, mais c'était impossible de trouver. Et d'un coup, c'était quand même possible. C'est un petit peu comme un roman policier. Hein. On fait des recherches et parfois on trouve, parfois on ne trouve pas, mais c'est vraiment un défi aussi.
Comment a-t-elle été accueillie à Minglan à son retour des camps ?
Alors, selon ce que je sais, il y avait une fête à l'entrée des païens pour l'accueillir en fanfare. Il y avait une sorte de banderole devant la maison de l'entrée des païens avec une croix lorraine. Il y a la maîtresse de l'époque qui est allée avec les enfants pour l'accueillir et pour chanter, pour lui souhaiter le bienvenu.
Bah merci Goudron.
Merci
de nous avoir accordé un peu de temps.
Ouais. Bah, je vous en prie.
Dans l'attente de nouvelles de Capucine, notre autostoppeuse qui cherche à rejoindre le village de Sous, nous prenons le temps de flâner dans les champs de lavande qui étendent leur nappe odorante autour d'un village qui répond au nom sucré de Chamaloc. Nous y rencontrons Alain Aubanel, agriculteur, producteur et distillateur de plantes à parfums aromatiques et médicinales. Un métier passionnant, mais qu'il craint de voir disparaître.
La lavande n'est pas un produit toxique. C'est ce que défendent ses producteurs et productrices face à une réglementation qui menace depuis plusieurs années de la considérer comme dangereuse. Parmi eux, Alain Aubanel, agriculteur, producteur et distillateur de lavande, mais aussi président du syndicat national des producteurs de plantes aromatiques et médicinales et président du comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises. Nous sommes allés à sa rencontre à la distillerie des Quatre Vallées.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va ?
Et vous ?
Ça va.
Ça va.
Tour. Alain Aubanel, je suis agriculteur à Chamaloc et producteur et distillateur de lavande.
Donc là, on est sur la distillerie traditionnelle. Donc on a deux cuves de 5000 litres en inox, une cuve toujours en inox de 1000 litres. Et ça sert plutôt à faire tout ce qui est plantes aromatiques, plantes médicinales et tout ce qui est en bio. Et à côté, on a l'installation en caisson mobile. Et là, on est plutôt sur le lavandin, la sauge et les résineux. Il y a toujours une cuve qui est en train de distiller et une autre qu'on est en train de charger ou de décharger. Donc là, il est en train de mettre en place une remorque pleine de résineux qui va être distillée. Et là, l'autre, je ne sais pas, d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, dès que l'autre est terminé, on a juste à basculer le couvercle sur cette remorque. On raccorde l'arrivée de vapeur et on va distiller directement dans la remorque. C'est mon grand-père qui a commencé dans les années 1900. Donc à l'époque, ils étaient plutôt sur la cueillette sauvage et des petits alambics en cuivre, avec des cuves de 100 litres. Après, je crois que c'était en 1960, 70, mon père avait fait, alors à l'époque c'était ce qu'on appelait les distilleries modernes, hein, avec une distillerie fixe, des vases de 1600 litres, donc là c'était vraiment la grosse industrie. Et puis bon, le développement de l'utilisation des huiles essentielles, le développement de l'aromathérapie, le développement de tout ce qu'on appelle la parfumerie fonctionnelle, les lessives, les savons, les shampoings, les adoucisseurs. Puis en plus, le secteur du Diwa va très très bien pour faire des plantes et de l'huile essentielle. On a des super qualités sur le secteur. Et bien, ça s'est développé. Ceux qui pouvaient faire de la clairette faisaient de la clairette. Et les autres, ils ont fait des noix, des lavandes ou du lavandin ou d'autres plantes, quoi. La grosse différence entre ce qu'on faisait il y a 20 ans et ce qu'on fait maintenant, c'est qu'il y a 20 ans, l'huile essentielle, elle était fantastique. Mais en fait, on ne faisait pas d'analyse. Donc c'était comme un vin, quoi. On aime ou on n'aime pas. Mais on ne savait pas trop ce qu'il y avait dedans. Aujourd'hui, tous les lots sont pesés, mesurés et analysés pour savoir exactement ce qu'il y a dedans. Et du coup, on a été obligé de vraiment améliorer les process de récolte et de distillation. Et ce qui nous a permis de nous apercevoir que sur la même plante, si on récolte trop tôt, c'est pas bon. Si on récolte trop tard, c'est pas bon. Donc bien calculer le moment idéal pour la récolte et aussi sur la façon de distiller. On s'est aperçu par exemple que sur les vieilles distilleries qui ont des chauffages à bois ou à paille, l'énergie ne coûtait rien. On voulait récupérer la dernière goutte. La dernière goutte, c'est pas forcément la meilleure. Par exemple, une molécule comme le carvacrol qu'on va trouver dans de l'origan ou dans de la sarriette, elle sort plutôt à la fin. Donc si on a besoin, par exemple, de carvacrol, on va faire une distillation un peu plus longue. Sur l'origan, c'est très bien. Sur la sarriette, c'est moins bien. C'est les analyses qui nous ont permis de découvrir tout ça. Donc là, on est sur les essentiels, c'est là qu'on va récupérer l'huile essentielle. Donc le principe de la distillation, c'est très simple. C'est juste une extraction à la vapeur d'eau. C'est-à-dire qu'on met du végétal dans les cuves, on fait de la vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau, on l'envoie par le bain. Sous l'effet de la chaleur, ça va libérer l'huile essentielle. Ce mélange gazeux, vapeur d'eau plus vapeur d'huile essentielle, va passer dans des refroidisseurs. Donc on va passer d'une phase gazeuse à une phase liquide. Et après, voilà, à ce niveau-là, on a un mélange d'eau et d'huile essentielle. Et au niveau de l'essentiel, c'est juste une cuve qui est assez haute. Et on a une séparation par différence de densité. L'huile essentielle fait 885 grammes de densité. Elle est plus légère, donc elle va monter. Donc ce qu'on voit qui coule en haut, c'est l'huile essentielle. Et ce qui sort en bas, c'est l'eau. Quand je dis l'eau, c'est l'hydrolat ou l'eau florale. Dans un hydrolat, on a entre 2, 3, 4% maximum d'huile essentielle. Par contre, c'est un super produit qui a plein de vertus pour de l'aromathérapie. Mais voilà, tout ce qui est là, c'est de l'huile essentielle de pin sylvestre.
Ouais, ça sent.
Ça sent bon. On entendrait presque chanter des oiseaux. Ce qui fait la qualité d'une huile essentielle, c'est la variété, le terroir, parce que la même variété, vous la mettez plein nord ou plein sud, sur un terrain calcaire ou sur un terrain argileux, le résultat sera différent. Une année de sec, une année humide, ça sera différent. La façon de récolter, la façon de sécher, la façon de distiller, la façon de conserver et stocker l'huile essentielle, tout ça va influer sur la qualité. Et il faut être extrêmement vigilant à chaque étape parce que si on a un producteur qui travaille merveilleusement bien et que le distillateur lui saccage son travail, ça ne le fait pas. Et ça peut être aussi, nous on n'est pas des magiciens. Si on nous amène de la mauvaise marchandise, on ne sortira rien de bien, quoi. Voilà, pour avoir une bonne qualité, il faut que chaque étape soit parfaite et là on fait des choses bien, quoi. Donc ça c'est la chaudière. Donc c'est un beau bébé et c'est vraiment un des éléments centrales de la distillerie parce que pour avoir une bonne distillation, une bonne qualité d'huile essentielle, c'est indispensable d'avoir une qualité de vapeur parfaite. Et il faut ce qu'on appelle notamment de la vapeur sèche. Il ne faut absolument pas qu'il y ait d'eau ou de gouttelettes ou même de micro-gouttelettes d'eau qui partent avec la vapeur. Parce que chaque fois qu'on aura de l'eau avec le végétal qui va être distillé, ça va faire de l'hydrolyse. Et cette hydrolyse va dénaturer la qualité de l'huile essentielle. Donc voilà, nous on travaille énormément sur la qualité de la vapeur. Voilà, si on veut que ça marche bien, il faut de l'électronique, mais il faut quelqu'un qui sache comment ça marche. Et là, quand on a un peu l'habitude, voilà, rien qu'au bruit, des fois, les sifflements qu'on entendait tout à l'heure, c'est le sifflement de la vapeur dans les tuyaux. C'est comme les mécanos, hein. Ils ont de l'électronique dans les voitures, mais des fois, à l'oreille, ça les aide pour régler un moteur. Mais nous, c'est pareil, quoi. Bon, après, il faut juste une vingtaine d'années d'expérience, quoi.
Juste ça.
On a la chance de suivre une production de A à Z. C'est-à-dire qu'on va faire des pleins, on va faire des boutures, on va les mettre en champ. Donc déjà, il faut que ça pousse. Il faut les aider à pousser. Et puis après, on va avoir des plantations qu'il faut entretenir. C'est quand même du boulot toute l'année. Et puis après, on va avoir des récoltes. Il faut travailler sur la récolte. Il faut faire sécher. Et puis après, il faut distiller. Une fois que c'est distillé, il faut travailler l'huile essentielle. Il faut faire de la filtration. Il faut des fois faire des assemblages. Et puis après, on va faire des produits. Puis du coup, on fait un peu de marketing. On fait du commerce. On accueille des visiteurs, des touristes ou des professionnels. Ce qui fait qu'en fait, j'ai l'impression de jamais faire la même chose tous les jours. Et en fonction des saisons, c'est complètement différent. Et le fait de pouvoir aller de la production au consommateur ou à l'utilisateur final, c'est vachement bien, quoi. Enfin, c'est un peu comme un viticulteur, voilà, qui va faire son vin et qui va faire déguster. Et puis voilà, on a la personne qui est en face de nous, on se regarde dans les yeux. Et puis la personne, on a vite vu si, si c'est bon ou si c'est pas bon, quoi. Voilà. Et quand c'est bon, et c'est une certaine fierté, quoi. On s'est dit, on a bien bossé. Là, on est dans la boutique. Déjà, vous pouvez voir le type d'alambic qui était utilisé dans les années 1800. Voilà, alambic en cuivre avec un vase de 50 litres. Mais ça, à l'époque, c'était fantastique, quoi. Les pins, pour moi, c'est une vraie richesse pour le territoire, donc pour la région, pour le département, et pour les communes et pour les gens qui y vivent. Parce que les pins, quand je dis pins, c'est plantes à parfum aromatiques et médicinales. Hein. C'est plutôt des plantes qui vont pousser, alors c'est pas péjoratif, mais dans l'arrière-pays de montagnes sèches, dans des endroits où il y a peu de terre, où on ne peut pas faire d'irrigation, et l'hiver il fait très froid, et l'été il fait très chaud. Et par contre, voilà, ces cultures-là vont bien. Donc en gros, bien souvent, c'est souvent la seule culture qu'on peut faire dans certains secteurs. Donc c'est ce qui permet de tenir des agriculteurs. Et quand on tient des agriculteurs dans un secteur, on tient aussi de l'économie. Parce que quand il y a de l'agriculture, il y a des marchands de matériel, il y a des écoles, il y a du service public. Donc voilà, les plantes participent à cette économie. Et la culture des plantes génère aussi de la richesse, quand je disais sur tout le département. On avait fait une étude qui démontrait que pour 1 euro à la production, ça générait 2 euros de chiffre d'affaires sur l'apiculture. Parce qu'en fait, nos plantes font vivre les apiculteurs. L'été, sur des thènes, du romarin, des merles, des sauges, sur toutes les plantes, les abeilles font du miel. Et il n'y aurait pas ces plantes, il y aurait beaucoup moins d'abeilles, il y aurait beaucoup moins de miel. Donc on est quand même des bons acteurs sur la biodiversité. On a beaucoup d'entreprises qui sont dans la Drôme et notamment dans la Biovallée, c'est pas le fait du hasard si des entreprises qui étaient en région parisienne ou même à l'étranger sont venues s'installer dans la Drôme et dans la Biovallée, c'est parce qu'ils se sont rapprochés de la production. Ces entreprises, c'est énormément d'emplois. Et puis après, il y a une activité touristique qui va générer 100 fois plus de chiffre d'affaires que l'activité de la production. Parce que toute l'année, on a les gens qui viennent du monde entier. On a des Chinois, on a des Japonais, on a des Taïwanais, on a des gens de tout, des Américains, des Canadiens, des gens du Brésil, des Russes. Tous les gens du monde entier viennent. Et pourquoi ils viennent ? Ils viennent parce que c'est beau, parce que c'est un beau pays, mais ils viennent parce qu'il y a de la lavande. les gens, enfin, ce n'est pas le hasard, ils veulent voir de la lavande. Et ça, et bien après, ça fait tourner des campings, ça fait tourner des hôtels, des restaurants. Et puis quand ils viennent voir la lavande, et bien, ils vont acheter du vin, ils vont acheter du fromage et ça ramène une vraie économie sur le territoire.
Depuis quelques années, on a vu un peu fleurir sur les bords des champs des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « La lavande n'est pas un produit chimique ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la raison de ces pancartes ?
Ces pancartes, c'est une action syndicale et voilà, ça fait trois campagnes qu'on a fait. On a fait la lavande n'est pas un produit chimique », on a fait « Aidez-nous à sauver notre biodiversité ». Et cette année, c'était cessation d'activité, parce qu'on était sur une situation extrêmement dramatique. On a des problèmes avec certaines administrations françaises et européennes, où on a plein de gens qui ont toujours des très bonnes idées, où il faut protéger le consommateur, il faut protéger les travailleurs, il faut protéger l'environnement. On est parfaitement d'accord, et c'est ce qu'il faut faire. Après, quand on prend des réglementations, il faut toujours essayer de voir l'impact que va avoir la réglementation. Et c'est là qu'ils ont fortement péché. C'est-à-dire que toutes ces réglementations qu'on subit aujourd'hui sur les produits naturels, c'est des réglementations qui ont été faites pour mettre un petit peu d'ordre dans les dérivés de la pétrochimie. Tous les dérivés du pétrole et tous les produits, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des cancers, des leucémies et tout un tas de soucis, d'allergies qui sont très certainement dus à ce qu'on va respirer, avaler et se mettre sur le corps. Parfaitement d'accord. Seulement, quand une réglementation est faite pour des produits de synthèse et qu'on veut l'adapter automatiquement avec des produits naturels, eh bien, ça ne marche pas. Parce que faire entrer des ronds dans des carrés, personne ne sait faire. Et ce qui est vraiment dramatique dans tout ça, c'est que s'il n'y a pas d'évolution réglementaire, 99% des produits de synthèse passeront sans aucun souci la réglementation. Et puis les produits de synthèse qui ne passeront pas la réglementation, ce n'est pas un problème pour les entreprises, parce que quand on supprime un produit de synthèse, le lendemain, il y en a un autre qui le remplace. Et comme il faut 5 ans pour l'étudier, eh ben, on n'aura rien résolu. Par contre, un produit naturel qui ne passe pas une réglementation. Aujourd'hui, on nous dit, la lavande, c'est potentiellement cancérigène, c'est potentiellement perturbateur endocrinien, c'est potentiellement allergène. Alors, j'aime bien le mot potentiellement. On ne va pas modifier la lavande. La lavande, nous, on ne l'a pas créée. On récupère ce que la nature nous a donné. Et s'il n'y a pas d'évolution réglementaire, on va se retrouver en 2025... avec une impossibilité de commercialiser des huiles essentielles. Et pour moi, la phase d'après, c'est même les produits naturels. Parce que, alors, la loi n'interdira jamais de vendre de la lavande, du thym ou du romarin. Mais la loi peut obliger à avoir des étiquetages tellement discriminatoires que personne ne les achètera. Et puis même les industriels. Enfin, je ne vois pas un parfumeur faire un parfum et sur le flacon, il y aura marqué « allergène ». Je ne vois pas un savonnier faire un savon à la lavande où dessus il y aura un pictogramme qui dira que ça peut être perturbateur endocrinien ou CMR. Voilà. Donc, de fait, on aura une discrimination sur le produit naturel. Et ce qui est encore le pire, c'est qu'on ne pourra plus utiliser de produits naturels et le produit naturel sera remplacé par du produit de synthèse. Donc, qu'est-ce que le consommateur et l'environnement aura à gagner si les productions de terroirs sont supprimées pour laisser le champ libre à de la synthèse qui sera fabriquée en Chine et en Inde? Là, je ne comprends pas.
Je crois qu'il y a une molécule en particulier qui est visée par la réglementation européenne. Comment et quels sont les produits de synthèse en fait, qui pourraient être interdits et du coup remplacés par d'autres aujourd'hui?
Aujourd'hui, les molécules de synthèse qui sont controversées, c'est des molécules comme le linalol, comme le limonène, et d'autres dont j'ai mangé le nom parce que je ne suis pas chimiste. En fait, toutes les molécules naturelles ont leur équivalent en molécules de synthèse. Parce que ça coûte souvent beaucoup moins cher de faire une molécule de synthèse que de faire, d'avoir des produits naturels. Et ces molécules de synthèse, elles sont souvent instables, elles s'oxydent en général assez rapidement. Vous prenez le linalol,
Je pense que 90% ou 95% du linalol qui est utilisé dans le monde est du linalol de synthèse. Le linalol, c'est le premier composant de la lavande, du lavandin, de la soja, et on le retrouve partout. Le linalol de synthèse, il s'oxyde et après il devient allergène. Le linalol naturel, il ne s'oxyde jamais. Parce que dans une huile essentielle de lavande, il y a plus de 600 molécules. Il y a des molécules qui sont antioxydantes. Et le fait d'avoir ce mélange d'huile, de molécules fait que le produit est complètement stable. Et il n'y a pas de souci. Le limonène, c'est considéré comme un produit dangereux. Le limonène, c'est la molécule qu'il y a dans le citron. Là où on respire le plus de limonène, c'est quand on va couper un citron en deux. Donc c'est pareil, moi il faut qu'on m'explique, est-ce qu'on va mettre des têtes de mort sur les citrons ou on va interdire la commercialisation des citrons? On a des molécules qui sont controversées dans le thym. Le thym, tout le monde l'utilise, tout le monde en met dans le barbecue et dans les herbes de Provence. Est-ce qu'on va interdire le mélange herbes de Provence pour mettre sur le barbecue, dans les salades et dans les pizzas, quoi. Et moi ce qui me renverse un peu, c'est que... On n'a que 2000 ans d'utilisation, donc c'est vrai que pour certains scientifiques qui ont leur diplôme depuis 3 jours, c'est pas assez. Mais on considère quand même que les plantes ont apporté plus de bien-être aux gens que de malheur, quoi. Souvent, moi, je dis, où sont les morts ? Ben, il n'y en a pas. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas autre chose à faire que de vouloir légiférer sur la lavande, le thym et le romarin? Et dépenser des millions ou des milliards d'euros pour savoir si ces plantes-là sont dangereuses pour l'homme et pour l'environnement. Aujourd'hui, on nous demande de faire des tests pour savoir la dangerosité potentielle de l'huile essentielle sur l'environnement. Est-ce qu'on a eu des nappes phréatiques ou des captages pollués par de la lavande ou du thym, quoi ? C'est du grand n'importe quoi. Le problème, c'est qu'ils confondent le danger et le risque. Enfin, les carottes râpées, c'est dangereux. Si on en mange 5 kilos, on peut mourir. L'eau, à partir de 6 litres, on meurt. Et l'huile essentielle, je confirme que si on se noie dans une cuve, on va mourir. Et si on en boit un litre, on va peut-être mourir. Mais qui, depuis la nuit des temps, a bu un litre d'huile essentielle? Et même qui en a bu une cuillère à café? Ça ne peut pas exister. Déjà parce que c'est pas bon. Il y a beaucoup de gens dans les administrations qui nous disent les appels au centre anti-poison ont doublé en quelques années. Donc, c'est que c'est dangereux. Moi, je dis non, c'est pas ça. C'est que l'utilisation d'huile essentielle a doublé en quelques années. Mais comme la réglementation nous interdit de dire à quoi sert l'huile essentielle, il y a des mésusages. Et les gens qui appellent au centre antipoison, à 80%, c'est une maman qui appelle pour dire « Mon petit, il a mis le flacon à la bouche. » « Ok, qu'est-ce qui s'est passé ?» Eh bien, il pleure et il a fait la grimace. « Ok. » La langue n'est pas tombée, et le lendemain, le petit... il n'est même pas allé à l'hôpital, quoi. Des gens qui téléphonent en disant « J'ai utilisé un produit cosmétique, j'ai une rougeur sur le bras. » OK. Le lendemain, la rougeur, elle a disparu. Voilà. Mais ça, c'est considéré comme un appel à un centre antipoison et donc potentiellement dangereux. C'est du vin. C'est de la statistique mal exploitée. Pour moi, il n'y a pas d'enjeu public sur l'utilisation des huiles essentielles tant qu'on les fait dans les règles de l'art.
Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? L'abandon pur et simple de ces réglementations? Est-ce que vous demandez plutôt un statut particulier, disons, pour les producteurs et du coup pour les produits naturels, en fait?
On ne demande pas l'abandon de la réglementation parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il faut de la réglementation. Et la réglementation empêche les gens de faire n'importe quoi. Donc nous, on considère qu'il faut une réglementation, mais il faut une réglementation spécifique aux produits naturels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est dans le même sac que les dérivés du pétrole et les produits de synthèse. La réglementation actuelle, pour moi, va très bien sur tout ce qui touche à la chimie. Mais il faut qu'on ait une modification ou une évaluation différente sur la réglementation. Il faut qu'on ait une réglementation spécifique aux produits naturels. Et là, après, il n'y aura plus de problème parce que aujourd'hui, pour qualifier la dangerosité des huiles essentielles et des produits naturels, on fonctionne par extrapolation de ce qu'on sait de la chimie. Donc, ça passe jamais. Et on sait très bien que si on fait des tests sur une huile essentielle dans sa globalité, eh bien, on démontrera qu'il n'y a pas de souci. Mais réglementairement, aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire des tests. Donc c'est un peu... C'est compliqué, quoi. C'est désespérant.
Si la réglementation elle passait en l'état de cause, quelles conséquences ça aurait sur vous, sur les autres producteurs, sur la distillation
Mais la conséquence, elle est vite faite. C'est que si on a le droit de cultiver des plantes, mais que personne ne nous en achète, on ne va pas en cultiver longtemps. Ça veut dire que les producteurs vont arrêter, les distilleries vont fermer, les 40 ou 50 entreprises qu'il y a dans la Drôme qui utilisent ces produits, eh ben, elles vont changer de métier. Et tous les touristes qui viennent, ben, ils ne viendront plus. Parce que voilà, voir des buissons, ça ne déplace pas les foules. Donc ça veut dire qu'au niveau de l'économie des régions, on va être sur des régions complètement sinistrées. Il n'y aura plus rien. Et dans certains secteurs, vous allez, enfin, dans le Haut-Diwa, dans les baronnies, si vous enlevez enfin, les plantes, il reste quoi ? Il n'y a pas d'autre possibilité. Tout le monde ne fera pas du picodon et tout le monde ne fera pas du petit épeautre. Il y a des marchés qui sont saturés. Non, s'il n'y a pas d'évolution réglementaire, nous, on est foutus, mais les départements et les régions, ils sont foutus aussi, quoi.
Pour toutes les raisons économiques que vous avez citées tout à l'heure, liées à l'agrotourisme, tout ça.
Oui. Mais bien sûr, un département comme la Drôme, les entreprises et le tourisme, enfin, si on enlève une partie de l'activité agricole, une partie de l'activité économique et une partie du tourisme, eh ben, ça sera compliqué, quoi.
Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, du coup, de ces réglementations ? Est-ce que vous savez s'il y a des amendements ou des choses comme ça qui sont allés un peu dans le sens, dans votre sens à vous et de celui des producteurs ?
Je suis un petit peu moins inquiet aujourd'hui qu'au printemps, parce que tout le monde, enfin, tous les parlementaires, tous les élus, on a des communautés de communes, on a des maires qui ont pris des motions pour nous soutenir. En ce moment, il y a un groupe parlementaire qui est en train de travailler pour demander une réécriture du texte. Et au niveau des ministères, on a le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Économie qui sont vent debout pour nous aider. On a le président de la République qui a dit que la lavande était un patrimoine national et qu'il ne fallait pas y toucher. Donc ça va plutôt dans le bon sens. On a le sentiment qu'on commence à être écouté. On n'est pas forcément entendu sur tous les sujets. Donc voilà, sur les perturbateurs endocriniens, on a espoir que ça s'arrange. Sur d'autres sujets, ben pour l'instant, on a encore certains blocages, mais des gros blocages sur certaines administrations françaises.
Pour cet été, il y aura une nouvelle distillerie, parce que même si cette distillerie-là est quand même assez performante, l'activité sur le secteur d'Iwa, Crétois, enfin voilà, toute la zone de Biovallée, s'est tellement développée sur la production de plantes, on n'arrive plus à suivre. Voilà, l'été dernier, on a dû bosser 20 heures par jour, c'était plus tenable. Donc là, on fait une nouvelle distillerie, on va doubler la capacité. Et l'avantage pour nous de faire une nouvelle distillerie, c'est qu'on sera beaucoup plus propre. Voilà, on va passer vraiment à zéro rejet. C'est-à-dire que tous les hydrolats serviront à refroidir les échangeurs. On va aller sur un condenseur évaporatif. Donc actuellement, on pompe à la rivière pour refroidir. Et bien là, on n'aura plus besoin de pomper à la rivière. Et on n'aura plus de rejet parce que les hydrolats qu'on ne récupère pas serviront à refroidir. Voilà. Actuellement, on a une chaudière à fuel, on passe au gaz. Donc on va économiser à peu près 20-25% d'énergie. Et on met une nouvelle chaudière, les nouvelles générations de chaudières. Voilà, avec une consommation électrique divisée par deux, on sera vraiment zéro rejet. Et après, avec des qualités de vapeur parfaites, on va vraiment... Enfin, on est déjà bon, mais après, on sera très bon. Donc, on a l'huile essentielle de lavande, de lavandin et les eaux florales qui sont vraiment la production d'exploitation. Après, comme on a quand même pas mal de demandes d'autres huiles essentielles, on vend d'autres huiles essentielles qui ne sont pas produites sur l'exploitation, mais qui sont distillées à la distillerie. Donc, c'est des huiles essentielles qui viennent 100% de la Drôme, autour de 10 secteurs de Crée, et les plus loin viennent du secteur de Nyons, où on a du thym, du romarin, de l'amande poivrée, de la sauge sclarée. Depuis 2 ans, on fait les résineux. Donc, on a le pin sylvestre, le sapin pectiné, le douglas, le mélèze, le pin maritime.
Et après, on fait tous les produits dérivés avec de l'huile essentielle. Donc, on a tout ce qui est vraiment très classique en cosmétique. On a les savons solides, les savons liquides, les corps, les shampoings, les gels douche, les crèmes mains, crèmes pieds, voilà, les huiles de massage qui sont faites par des entreprises. Enfin, tous les autres produits, enfin, nous, on ne peut pas tout faire et on ne sait pas tout faire. Moi, je ne sais pas faire un savon et je ne sais pas faire une confiture ou un parfum, mais je sais ce que je veux. C'est-à-dire qu'après, nous, on travaille avec des artisans, on leur amène l'huile essentielle, on leur amène la fleur, on discute les formules, ils nous font le produit dont on a besoin, et après, c'est commercialisé ici. Le miel, c'est pareil. On a un partenariat avec des apiculteurs, notamment avec un qui est l'abeille du Vercors, qui a dit, où leurs ruches sont à l'année chez nous. Donc, on vend le miel de printemps qui est fait sur Chamaloc et le miel de lavande qui est fait aussi sur Chamaloc. Mais voilà, c'est, les ruches ne transhument plus. Elles sont à l'année au bord de nos champs. Ce qu'il faut regarder en priorité, c'est l'origine du produit. C'est-à-dire qu'un produit français, on est à peu près sûr d'avoir des produits qui respectent la réglementation et qui sont des produits honnêtes. Voilà, c'est la première chose à regarder. Alors, vous n'avez jamais des produits qui sont marqués origine Chine sur des plantes, parce que personne n'ose. Mais un produit où vous avez du mal à trouver l'origine, c'est qu'il y a un loup quelque part. Après, voilà, évitez un peu des fois les produits conditionnés en France ou transformés en France, parce que ça veut dire que ça vient de l'autre bout du monde. Mais sur une étiquette, si vous avez un nom que vous connaissez à peu près, si vous avez une adresse, si vous avez un mail ou un numéro de téléphone, voilà, pour moi, le producteur qui met son numéro de téléphone sur son étiquette, c'est qu'il est sûr de son coup. Mais ce qu'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est origine France. Et voilà, si c'est Dromois, c'est encore mieux.
Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces jeunes qui ont envie de s'installer ou de se former en PAM?
L'avantage des PAM, c'est qu'on peut s'installer sur très peu de surface et plutôt valoriser après, enfin, un savoir-faire et travailler sur la valeur ajoutée. Aujourd'hui, les PAM ont été victimes un petit peu de leur succès. Donc, dans la France entière et dans le monde entier, tout le monde veut en faire. Donc, il ne faut pas aller sur des cultures qui peuvent être fortement mécanisées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, le marché de la lavande, du lavandin, de la soja, c'est quand même un petit peu bouché. Par contre, on voit que sur de l'herboristerie, il y a encore énormément de demandes. Les entreprises veulent quand même relocaliser de la production. Il y a des entreprises qui veulent du produit français. Donc sur de l'aromatique et du médicinal, il y a quand même encore des places à prendre. Après, voilà, il faut... C'est pas si facile que ça, quoi. Il faut sortir un peu de l'image d'Épinal où on va planter quelques plantes dans le jardin et on va les regarder pousser et après on va les vendre des produits sur le marché, quoi. Moi, je suis toujours très admiratif pour les gens qui ont des très petites exploitations parce qu'ils font tous les métiers. Il faut qu'ils fassent des plantations. Souvent, la première récolte, c'est un ou deux ans après. Mais après, il faut faire de la distillation, il faut faire du séchage, il faut faire des produits, il faut faire du conditionnement, il faut aller faire les marchés. Et en gros, il faut faire tous les métiers. Et en gros, c'est du 7 jours sur 7, quoi. Donc, pour moi, c'est un super métier. Mais c'est dur et c'est du boulot, quoi. Mais comme souvent, ces gens-là font aussi ça par passion. Et ben, tant que la passion est là, il n'y a pas de souci, ça le fait, quoi.
Bonne journée.
On me signale que notre autostoppeuse Capucine nous rappelle. Alors, j'arrête le fil pour rejoindre Capucine. Capucine, tu es en ligne sur les ondes de Radio Saint-Féréol. On voulait te rappeler pour savoir où tu en étais de ton périple. Tu es partie de créer tout à l'heure des studios. Pour rejoindre Sous, tu en es où?
Alors là, je suis entre Sous et la forêt de Sous, en fait. Je suis dans une autre voiture, une troisième voiture.
Waouh!
Avec deux jeunes qui m'amènent jusqu'à mon point final pour rejoindre l'archi-jeu et les jeunes pour l'animation.
Au cœur de la forêt de Soue, donc.
Donc, au cœur de la forêt de Soue, et j'ai eu du mal à trouver du réseau.
Bon, on espère que ça ne va pas couper, mais donc, t'es parti vers 12h05 des studios de Radio Saint-Ferréol, au-dessus de l'office de tourisme, en plein centre de Cré, et tu es maintenant quasiment arrivé en plein cœur de la forêt de Soue. Bravo, hein, tu as rempli le défi. Est-ce que donc tes conducteurs nous entendent ? Comment vous vous appelez ?
Oui, ils sont là.
Bonjour.
Vous vous appelez comment ?
Nathan.
Manu et Nathan. Est-ce que c'est la première fois que vous prenez quelqu'un en stop ?
Clairement.
Ah, je crois qu'on vous a perdu en ligne. Voilà, donc ça confirme bien que Capucine est arrivée à destination en plein cœur de la forêt de Soue. Et donc l'aventure s'arrête là et le réseau aussi.
Notre autostoppeuse est arrivée à destination et notre émission touche également à sa fin. Radio Saint-Ferréol vous a proposé un voyage à travers la vallée de la Drôme à partir d'extraits de deux émissions, La Collective et Il est une vallée, ainsi que de sons réalisés par les élèves des écoles de Bourdeaux et de Minglon.
Vous venez d'écouter Aura des Pâquerettes, une émission proposée par Aura FM, la fédération des radios associatives non commerciales.
Merci de votre écoute et à bientôt sur cette antenne, à la rencontre d'un autre territoire. Une émission en réécoute sur le site aurafm.org.
Aura des Pâquerettes.